Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Vous savez bien qu'on représente dans l'art pictural, dans les peintures, très fréquemment la scène de l'Annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Il suffit, par exemple, allez vous promener au musée du Louvre à Paris, vous verrez le nombre de tableaux étonnants qui représentent la scène de l'Annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Mais l'Annonciation de l'ange à Joseph a eu relativement peu de succès dans les représentations picturales. Et pourtant, c'est bien de cela dont on nous parle ici dans cet évangile aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui a mené toute chose au point de départ, qui a demandé à Marie si elle acceptait de devenir la maman humaine de son Fils, le Verbe éternel engendré depuis toute éternité. Et puis, c'est Dieu aussi qui a demandé à Joseph s'il acceptait d'endosser la paternité de cet enfant qui ne venait pas de lui, mais qui lui était donné à lui aussi, pour qu'il nous soit donné à chacun de nous. Et Joseph, devant cette responsabilité, a eu un moment de vertige en disant « Je ne suis pas capable et je ne suis pas digne d'une telle mission ». C'est cela qui est caché sous le mot Joseph, qui était un homme juste. Il était un homme ajusté à Dieu et donc il savait bien ce que ça pouvait vouloir dire comme mission tout à fait particulière. Et d'une certaine façon, il a décliné. Il ne voulait pas dénoncer Marie, il ne voulait pas qu'il y ait un problème. Il décida de la renvoyer en secret. Et puis c'est l'ange qui a dû intervenir pour lui dire de prendre chez lui Marie, son épouse. Et à la fin, on nous dit, Joseph, quand il se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait dit. Il prit chez lui Marie, son épouse. Si on voulait pasticher le titre d'un livre récent, on pourrait dire que Joseph, c'est apostrophe EST, faire. Son mot-clé, c'est faire. Voilà. Il obéit, il fait ce que Dieu lui demande. Il obéit. C'est ça la foi. Et je dérive là vers une attitude spirituelle qui fut celle de Joseph, mais qui doit être aussi la nôtre. La foi, c'est d'obéir à Dieu. C'est pour ça que les Écritures des apôtres nous parlent souvent de cette réalité, l'obéissance de la foi. On a entendu dans la seconde lecture, Paul, qui écrit aux Romains, dit « Nous avons reçu par lui mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes. » Qu'est-ce que c'est qu'avoir foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, si ce n'est mettre notre vie à sa disposition, dans son sillage, obéir à son Fils, accepter sa parole et en faire la boussole de notre vie? L'obéissance de la foi. Nous, chrétiens, baptisés chrétiens, nous ne sommes pas sans référence et nous avons cette boussole qui est la parole de Dieu et nous y adhérons par l'obéissance de la foi. Un baptisé qui prend comme boussole l'opinion publique du monde ambiant, il est à côté de ses pompes d'une certaine façon, il est à côté de la plaque, il n'est pas vraiment chrétien parce que il ne prend pas sa référence dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus, troisièmement, Jésus porte un autre nom. Vous savez, on a tous plus ou moins plusieurs prénoms, prénom principal, puis d'autres, il y en a qui ont un seul prénom. Mais Jésus, dans l'Écriture, a reçu aussi un autre nom, et ce nom c'est Immanuel. En hébreu, ça veut dire Dieu avec nous, Emmanuel. Peut-être parmi nous, il y en a qui s'appellent Emmanuel, je ne sais pas, mais c'est un beau prénom. Et littéralement, étymologiquement, cela veut dire Dieu avec nous. L'évangile selon saint Matthieu, si vous le lisez, vous remarquerez qu'au début, Matthieu nous redonne la prophétie de l'Emmanuel qui était contenue dans le livre d'Isaïe et qu'on a entendu en première lecture. Et il nous dit que cet enfant, eh bien, on lui donnera le nom de l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et puis tout à la fin de son évangile, les dernières paroles de Jésus, ressuscité devant ses disciples avant de monter au ciel, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous, Emmanuel. » Même chose. Dieu avec nous. Ce que nous célébrons à Noël, c'est la présence de Jésus, pas seulement à la crèche, pas seulement il y a 2000 ans, mais concrètement, avec nous, dans notre vie de chaque jour, dans notre famille, si nous vivons une famille chrétienne, si nous prions ensemble, dans notre paroisse, dans notre société, ça c'est autre chose, c'est une autre question. Mais voyez, quand on parle au fond des racines chrétiennes de la France, on fait référence à une époque où, politiquement parlant, la France avait fait le saut de choisir la foi chrétienne comme axe profond. Et il en est résulté toute une efflorescence de vie chrétienne, de monastères, de cathédrales, de manifestations publiques de la foi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment, mais nous sommes appelés vraiment à vivre de Jésus, Dieu avec nous. Et c'est quelque chose de tellement important. Un chrétien ne peut pas être vraiment comme les autres. Il a référence à au-delà, à ailleurs, à Dieu. Et donc, il se dirige autrement. Et c'est bien, et c'est heureux, et c'est une grande joie, et c'est une grande force, et c'est une grande stabilité. Les personnes qui n'ont pas cette grâce de la foi, souvent, sont saisies par des difficultés et bourlinguées en tous sens. Le chrétien, même s'il a de très grandes difficultés, a toujours cette quille du bateau, vous savez, ce qui permet au bateau d'être stable au milieu des vagues. Cette quille du bateau qui est la foi et qui nous enracine en Dieu et qui fait que tout au fond de nous-mêmes, en profondeur, voilà, nous avons la présence, nous avons accès par la foi à la présence de Dieu avec nous. Et c'est merveilleux, et c'est beau, et c'est grand. Joseph, pour terminer, tout particulièrement, évidemment, l'a vécu. Dans le oui qu'il a dit à l'ange et dans la façon dont il a fait ce qui lui était demandé, il a servi au plus près Jésus qui était à côté de lui, évidemment, mais avec une foi totale. L'Écriture ne nous a conservé aucune parole de Joseph, aucune. C'est le saint du silence, comme on l'a surnommé. Il est celui qui a fait, point barre. Il n'y a pas de commentaire. Et pourtant, c'est une grande, grande figure. Comme quoi, au fond, le service de Dieu peut très bien s'accommoder du silence. Et que c'est souvent dans le silence du cœur préservé que nous avons la plus grande obéissance possible et la plus grande fécondité de notre vie, même si elle est cachée aux yeux du monde qui, lui, vit dans le tourbillon médiatique, la parole perpétuelle et qui ne voit pas certaines choses. Les réalités divines sont souvent silencieuses, cachées en profondeur. Maintenant, si l'on veut se contenter de regarder les vagues de la mer, c'est-à-dire l'écume qui est à l'extérieur, on est libre. Mais pour nous, chrétiens, nous voulons descendre en profondeur et recevoir cette présence divine qui nous comble.